Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. Restez, il y aura des verres, mais un autre genre de verre. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité sera l'humoriste Arnaud de sa mère pour son spectacle Deux mariages, un enterrement. Et Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebray sera là pour clore l'émission. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Philippe.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez les prises de parole médiatiques et d'ordinaire, vous livrez ici à des analyses. Mais hier soir, vous avez regardé Jean Castex aux 20h de TF1 et vous nous dites ce matin que vous avez préféré renoncer à votre traditionnelle mission.
Oui Philippe, je jette l'éponge. J'ai strictement rien compris aux 15 minutes et 12 secondes qu'auront duré les digressions castexiennes d'hier soir. Ou plutôt si, j'ai compris que depuis que le Premier ministre a abandonné ses lunettes pour passer à la télé, il est encore plus confus et plus flippant qu'avant. Alors, j'ai une proposition à faire à son service de communication. D'abord, remettez-lui ses binocles et surtout, interdisez-lui catégoriquement d'intervenir en direct. Enregistrez toutes ses interviews, coupez tout ce qui sert à rien, il y a du boulot, et faites un montage très, très, très serré. Alors, je me doute bien, Philippe, que ma proposition ne va pas être acceptée comme ça, juste sur la foi de ma bonne mine. Voilà pourquoi je vous ai apporté ce matin une maquette. Ouais, j'ai repris toute l'interview d'hier soir, j'ai réduit les 15 minutes à 3 et ça donne ça. Bonsoir monsieur le Premier ministre.
Bonsoir monsieur Boulou.
Ah non, moi c'est Donnet. Tiens, remettez donc vos lunettes, vous verrez mieux.
Oui, oui.
Alors, monsieur Castex, si vous êtes en studio avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez un problème.
Les prix de l'essence.
Voilà, c'est ça. Vous avez constaté une spectaculaire flambée des prix.
Plus 9 centimes par litre. À la pompe.
Et si j'ai bien compris, ça grève considérablement le budget de votre famille, parce qu'avec Madame Castex, vous roulez quand même pas mal.
Nous faisons 14 000 kilomètres par an en moyenne.
Ah oui, quand même, 14 000 kilomètres.
Vous savez, j'habite en zone rurale.
Oui, alors du coup, vous êtes très tributaire de votre bagnole, je comprends. Alors, précisément en euros, est-ce que vous sauriez dire quelle augmentation ça représente pour vous?
Ça fait une hausse sur l'année de 80 euros sur notre facture d'essence à devoir payer.
Attendez, non, 80 euros sur l'année, ça colle pas là, monsieur le Premier ministre. Faites le calcul.
Je le fais à nouveau devant vous.
Ouais. Alors, ok, vous trouvez combien là? Ça fait toujours 80 par mois?
Non, c'est 1000 euros.
Ah, qu'est-ce que je disais? Ça fait bien 1000 euros par an. Tiens, remettez donc vos lunettes.
Oui. Oui.
Bon, donc si je résume la situation, monsieur le Premier ministre, grosso modo, vous avez désormais des problèmes de fin de mois.
Grosso modo, le sujet, c'est celui-là.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander combien gagne votre épouse?
Moins de 2000 euros net par mois.
Ah oui. Bon, c'est pas mal, mais effectivement, c'est pas Byzance non plus.
C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte.
Je vois. Alors, vous me disiez également, monsieur le Premier ministre, que le prix du carburant n'est pas votre seule difficulté.
Certes, on parle, vous avez raison, de l'essence. Mais il n'y a pas que l'essence. Il n'y a pas que l'essence. Hein.
Voilà. Et il y a un autre poste qui plombe votre budget, et ça, je crois que c'est un sujet qui est important pour vous.
C'est très important parce que, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, les prix du gaz par rapport à 2019 ont été multipliés par 6. Par 6.
D'accord. Donc vous vous chauffez au gaz. Et ça vous a coûté combien en plus le mois dernier?
3,8 milliards.
3,8 milliards? Attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez à Matignon? Vous laissez toutes les portes ouvertes en permanence ou quoi?
Un chef du gouvernement, il ferme jamais aucune porte.
Ah bon, pardon, je savais pas. Mais quand même, monsieur le Premier ministre, 3,8 milliards, vous vous rendez compte? Votre chaudière doit pas être bien réglée.
Il y a des systèmes de tuyauterie qu'on va s'employer à régler et à accélérer.
D'accord. Bah, vous me rassurez. Donc, d'un mot, monsieur le Premier ministre, je m'excuse de vous presser, mais nous arrivons au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous réclamez précisément au président de la République?
Une usine à gaz.
Une neuve, j'imagine. Bon, écoutez, j'espère que votre message arrivera bien à l'Élysée. On n'a pas eu le temps d'évoquer Éric Zemmour, je suis navré. Je sais qu'on ne peut plus faire une interview politique sans parler de lui. Zemmour, vous vouliez dire un petit mot à son sujet?
On ne le voit plus.
Je me demande quand même si vous ne devriez pas remettre vos lunettes, monsieur le Premier ministre.
Oui. Oui.
Voilà. Allez, vive la République, vive la France. À vous, Philippe. À vous, Cognac-Jay.
Merci Bruno Donnet pour cet exercice de style. Toutes les citations évidemment sont authentiques, mais pas tout à fait comme ça. À lundi Bruno. Nicolas Carreau, oui. Votre indispensable du jour.
Et vous savez, parfois il y a des romans qui sont vraiment dans leur époque. C'est le cas de celui dont je vais vous parler tout à l'heure. Il parle de la culture woke.
Et Olivier Pouls, j'ai un peu spoilé, j'ai parlé de vert. Quel est votre programme, le programme de votre indispensable de ce matin?
Je vais parler d'un risque qui plane et qui, je sais, vous inquiète beaucoup. Y aura-t-il pénurie de champagne à Noël?
Mais tellement. Mais la France tremble.
Et oui.
On attend une communication du Premier ministre. Merci beaucoup. Dans un instant, on va être avec l'humoriste Arnaud de Samer, mais d'abord musique. C'est les collectifs, les copines d'abord, avec notamment les chanteuses Anne Silla, Clou, Vanille et d'autres, qui relèvent le délicat défi de moderniser sans abîmer les plus beaux titres de Georges Brassens. On va écouter leur reprise des Copains d'abord sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuate, nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord.
C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre.
C'était pas des amis choisis par Montaigne et la poésie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord.
C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient. Toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leur bras lançait des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore.
J'en ai pris beaucoup, mais les seuls qui tenaient le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord.
Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui tenait.
Les copains d'abord, c'était la reprise signée du collectif Les Copines d'abord sur Europe 1. Et je rappelle à l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens qu'Europe Europe 1 propose des programmes inédits, dont le documentaire sonore intitulé Georges Brassens, j'ai rendez-vous avec vous, à partir d'archives exclusives de la station. Il est souvent venu ici parler, à retrouver en podcast sur europe1.fr. Et Historiquement Vôtre va proposer aussi une émission spéciale aujourd'hui dès 16h. Mathieu Noël, Stéphane Bern, dès 16h.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Arnaud de Samer.
Bonjour Philippe Vandel.
Il est en train d'essayer de brancher son casque. Vous êtes humoriste, vous êtes déjà en train de faire des pantomimes.
J'ai essayé de baisser le volume.
Ah bon, il y a un bouton de volume devant vous.
Ça
vous,
va. Ah
vous avez
oui,
découvert
sous mes yeux.
Chez Laurent Ruquier, dans une demande qu'à en rire, mais aussi chez Michel Drucker le dimanche après-midi, votre vrai métier c'est la scène. 3 One Man Show, 400 000 spectateurs dans toute la France, et vous revenez en 2020 avec un nouveau spectacle. Et vous êtes revenu en 2020 avec un nouveau spectacle de mariage et un enterrement. Le spectacle a été interrompu par cause de Covid et de confinement. Je n'apprends rien, hélas, à personne. Et le spectacle repart en tournée. Et puis vous serez du 10 au 13 février à La Cigale à Paris. Pour qui a oublié, c'est quoi l'idée de ce spectacle ?
L'idée du spectacle, c'était de partir de choses vraiment pas drôles qui me sont arrivées dans la vie et de les utiliser comme prétexte narratif pour en faire un spectacle évidemment, que je considère évidemment très drôle.
Évidemment. Alors, c'est quoi ? Je vais rappeler le pitch de votre spectacle parce que je l'adore. Le voici. Arnaud de sa mère plus une épouse égale un mariage, moins une épouse égale un divorce. Un divorce plus une autre épouse égale deux mariages, plus un enfant, plus le départ de la nouvelle épouse égale deux divorces, plus une garde alternée, plus la mort du père, moins la motivation égale 4 ans de dépression, plus la renaissance, plus un œuf au plat, égale le spectacle de la maturation.
Voilà. On pouvait pas, on pouvait pas faire plus explicite, en fait. Il y a, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est plus, moins, plus. C'est l'histoire de ma vie ces 4 dernières années.
On est quasiment aux prémices. On va entendre un extrait sonore. On a retrouvé ce passage. Il n'y a pas tout à fait, on appelle des extraits sonores de maintenant, des extraits puisque des captations. On a retrouvé un passage que vous aviez présenté au Festival de Montreux. C'était en 2019. Souvenir.
Moi, depuis 4 ans, je ne suis pas venu au Festival de Montreux parce que, voilà, j'étais, ça va peut-être vous paraître un petit peu prétentieux, mais je n'étais pas invité, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de pas y aller. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si une fois, je suis allé quelque part, je suis allé à un truc où j'étais pas invité, je le referai plus. Sans y être invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Pas bien, faut pas faire ça. Non, il y a eu un malaise. Alors, la cérémonie était très bien. Hein. Moi, ça allait très bien, mais je sais pas. Dans le regard des gens. J'ai senti, peut-être que j'exagère, mais comme si les gens se demandaient ce que je foutais là, en fait. Vous voyez ? Ah. Et le malaise, je l'ai surtout senti au moment de l'échange des consentements. Un moment très beau, très solennel, il y avait mon ex-femme qui était là, magnifique. Oh là, pardon, allez. Il y avait son futur mari qui était là, futur mari qui donc, à l'instant présent, était donc toujours hein, officiellement son ex-amant. Pardon, j'ai un fou rire.
Évidemment, vous êtes beaucoup plus proche des larmes que du rire. Vous avez également résumé votre nouveau spectacle. Comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? Vous êtes vraiment tombé en dépression.
Mais oui, au point de vouloir arrêter ce métier parce que ça devenait une escroquerie pour moi de prétendre faire rire les gens, leur transmettre de la bonne humeur alors que j'étais vide à l'intérieur, vraiment. Donc, je suis arrivé à ce constat-là il y a un peu plus de 2 ans. Et en discutant avec Jérémy Ferrari, qui a plusieurs casquettes, mais avec moi, celle de meilleur ami, producteur et également artiste de talent, je lui en ai parlé et je lui ai dit et je lui ai fait ce constat. Et c'est lui qui m'a expliqué que non, j'avais énormément de chance d'avoir vécu tout ça parce que c'était des prétextes formidables pour écrire un spectacle d'humour. Quoi.
Il vous a dit quoi ? Comment il a fait pour vous remettre en selle ?
Déjà, il m'a convaincu que j'étais fait pour ça. Chose que j'avais perdu complètement l'estime de moi-même en tant qu'artiste parce que je ne supportais plus la manière dont je faisais ce métier.
Oui, mais vous vous rendez bien compte, quand bien même étiez-vous en dépression, qu'une fois sur scène, les gens riaient.
Oui, mais
Raymond DeVos, paraît-il, était complètement cabossé de l'intérieur et les gens étaient morts de rire en allant le voir.
Oui, mais alors déjà que j'ai le syndrome de l'imposteur, en plus en étant en dépression, j'avais vraiment l'impression de mentir aux gens, de dire. Parce que quand vous êtes sur scène, oui, vous êtes bien, mais vous les faites rire. Mais
enfin, c'est un classique, c'est la figure du clown triste. Ça, vous ne pouviez pas supporter ça.
Mais j'ai vécu 18 ans de carrière en n'étant pas du tout un clown triste, en allant très bien et en n'ayant pas vécu des choses tristes dans ma vie. Donc tout à coup, ça m'a pris de plein fouet comme ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Comment c'est compatible de se présenter devant des gens en voulant transmettre quelque chose ? Parce que c'est quand même une histoire de don. C'est de générosité, l'acte de monter sur scène, on transmet quelque chose. À partir du moment où on considère qu'on est vide et qu'on n'a plus rien à transmettre, on fait ça parce que c'est son métier, parce qu'on est rémunéré à la fin. Et pour moi, là, ça devient une escroquerie.
Donc Jérémy Ferrari vous donne confiance à nouveau en vous, mais vous dit « écris sur ce qui est plus noir en toi ».
Exactement. Et il me dit, il me donne des clés vraiment très simples. Il me dit « écris, ne cherche pas à être drôle, tu es drôle ». Alors déjà, il m'a reboosté en tant que... Il m'a regonflé l'ego, il m'a dit... Re-regarde les sketchs que tu as fait il y a 10 ans chez Ruquier, etc. Regarde avec quelle innocence et spontanéité tu écrivais, retrouve ça. Et il m'a dit, écris, ne cherche pas à être drôle, tu l'es, il n'y a pas de souci. Tu prends les choses par ordre chronologique et tu grattes, tu grattes, tu grattes.
Mais avant, ça allait très très bien.
Avant, ça allait très très bien.
Et bien justement, c'est le portrait pré-fame. Comment était Arnaud de sa mère avant d'être connu, avant même qu'il prenne un pseudo?
Aïe.
Réponse avec Lisa Marie Marquez dans un instant dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blondel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste Arnaud de sa mère. On parle de son spectacle Deux mariages et un enterrement, et c'est pas une blague. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Arnaud de sa mère.
Bonjour.
Vous êtes un comédien humoriste, vous êtes le maître de l'absurde et de l'humour décalé. Et même si vous trouvez que votre parcours est d'une banalité déconcertante, vous êtes allé au bout de vos rêves. Alors, on va se poser la question, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Arnaud de sa mère, vous êtes né à Bordeaux et vous passez la première partie de votre vie dans le sud-ouest. Votre père est général dans l'armée de l'air et lorsqu'il est muté, vous venez vous installer dans les Yvelines près de Paris. À l'école, vous êtes un élève sérieux, mais vous aimez toujours sortir le bon mot pour faire marrer vos copains et aussi vos profs. D'ailleurs, vous avez toujours aimé faire rire les gens. Lorsqu'on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, vous répondez « footballeur » ou « vainqueur du Tour de France ». C'est vrai?
Mais oui. Grosse passion, le sport.
Voilà.
Ouais.
Et le tour, vous êtes à quel niveau? Voilà. Allez, hop, voilà. Au revoir.
Et bien que le sport automobile ne soit pas encore une passion, vous vous retrouvez pour la première fois derrière le volant d'une voiture, une Clio, à 14 ans, sur le parking d'un supermarché.
Oh,
et vous êtes très fier d'apprendre à passer les vitesses.
Incroyable, mais oui.
Vous n'attendiez pas à ça?
Mais non, je ne m'attendais pas à ça. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher ce...
Ouais. Non, mais c'était comment alors? Vous étiez comme un fou, vous pensiez que vous étiez Ayrton Senna?
Non, j'étais comme un fou. Et surtout, pour moi, c'était un mystère, c'était un des grands mystères de l'univers, le passage des rapports avec la boîte manuelle.
Ouais.
Et j'étais fou d'admiration pour les gens qui savaient s'en servir.
Et vous aimez toujours, vous êtes nostalgique, vous voulez pas passer à l'automatique?
Si, maintenant on est obligé, oh, hein, ça n'existe plus tout ça. Hein.
C'était mon petit point garagiste. Lisa Marie.
Concernant vos inspirations, Arnaud de sa mère, on retrouve de la musique comme Stéphane Echer.
Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix.
Mais aussi Jean-Jacques Goldman.
Évidemment.
Et un film que vous connaissez par cœur.
Dites ce que c'est, il y a des gens
les bronzés font du ski.
Il y a
les
des
bronzés
gens qui
font du ski.
Générique.
Mais oui, les bronzés font du ski.
Excusez-moi, le train pour Bourg-Saint-Maurice, c'est où? C'est pas indiqué là. Bah, ça m'étonne pas, ici on est à Saint-Lazare. Enfin écoutez, c'est marqué sur mon billet là. C'est mes yeux ou quoi? Ouais, je crois que ça doit être vos yeux. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais.
Ah, vous connaissez vraiment tout le film par cœur?
Ah non, les bronzés, ouais, je suis incollable.
Comment ils le connaissaient par cœur?
Parce que vous l'avez enregistré sur une cassette audio pour l'écouter partout, en classe et après dans votre voiture.
Mais oui, ma première Twingo, j'avais une cassette audio des bronzés font du ski, je le mettais dans le radio cassette,
ouais.
Ça s'appelle.
Bien
voilà.
Sûr, radio cassette.
Voilà, et je le mettais dans ma bagnole.
Vous aviez oublié ce souvenir-là aussi?
Mais oui, c'est vraiment Madeleine de Proust là pour le coup. Incroyable, ma Twingo bleue. Oh là là.
Arnaud de sa mère, au lycée, vous commencez le théâtre. Avec vos copains, vous montez Le Père Noël est une ordure.
Qu'on n'a jamais joué.
Ah, vous ne l'avez jamais joué?
On l'a répété pendant 6 mois et on ne l'a jamais joué parce que le gars qui jouait un des rôles principaux s'est fait virer du lycée ou du collège, je ne sais plus. Mmh. Il s'est fait virer et donc la punition, c'était... Allez hop, pas de dommages collatéraux et on n'a pas fait le spectacle.
Vous obtenez votre bac ES avec 10,02 de moyenne grâce à votre 15 sur 20 en allemand, mais certainement pas grâce à la philo qui vous traumatise.
Pourquoi vous tenez la tête?
C'est 10,02. Bah c'est pas mal, ça passe.
Mais parce que oui, moi on me demande d'avoir la moyenne pour avoir le bac, je vais pas faire plus. Hein.
Ouais.
Et j'avais eu 15 à mon oral d'allemand avec un coup de bol, il y avait 10 textes au hasard, j'en avais travaillé qu'un. Elle me fait tirer au sort et je tombe sur ce texte et elle me dit « Mais vous avez combien de moyenne dans l'année 10 ?»« Non, mais je vous mets 15, vous valez bien plus que ça en allemand. » Et je suis sorti de là en étant persuadé d'être bilingue.
Et comme vos parents vous poussent à faire des études pour avoir un vrai métier, vous entrez en fac de droit un peu par défaut. Vous suivez les cours, vous étudiez et lors des partiels, vous avez toujours des gris-gris dans votre trousse.
Ouais. Une fée clochette. Une fée clochette, alors ça, je pense que
c'est
j'avais...
super masculin, ça.
Je pense que j'avais récupéré cette fée clochette d'une jeune femme. Mais là, c'est un petit peu loin, là, je vous avoue. Mais je me souviens d'une fée clochette, oui.
Pendant vos années fac, vous découvrez le concept des matchs d'impro avec les codes du hockey sur glace. Vous aimez tout ce cérémonial. Les matchs ont lieu dans un amphi à la fac le mardi soir. Votre groupe d'impro s'appelle les Facultrons.
Oui.
Et même les profs vous voient plus comédien que juriste.
Mais oui, oui. Oui, ça a été la, pour moi la révélation. Bah. C'est-à-dire que aller à la fac, pour moi, c'était synonyme d'improvisation, ouais. de théâtre. Et voilà. Et donc, oui, je découvre ces gens qui font l'improvisation. Et on découvrira après que c'est l'association Déclic Théâtre avec Papy, Jamel, etc.
Ceci, il y avait une bonne intuition parce que moi, en le voyant, j'ai aucune envie qu'il soit juriste. Hein. Franchement, si j'ai un juriste à prendre, je le mets parmi les derniers Arnaud de sa mère. Je le garde en humoriste.
Bien vu.
Une fois vos études finies, votre maîtrise de droit des affaires en poche, vous devenez commercial dans une entreprise qui exporte des fournitures scolaires. En parallèle, vous continuez à pratiquer le théâtre d'improvisation. Lors de votre toute première prestation en public à Versailles, le thème proposé, c'est la vie de ma mère. Vous vous présentez et là, vous avez un blanc abyssal, un blocage total. Vous vous retrouvez sans pouvoir dire quoi que ce soit. Le lendemain, vos potes se moquent de vous puisque vous n'avez pas réussi à parler de votre mère et c'est comme ça que vous devenez Arnaud de sa mère.
Oui, je deviens même de sa mère tout court. Il va nous parler de sa mère. Et en fait, il m'appelait par mon vrai nom de famille avant. Il m'appelait Tsedri. Il y a la même consonance. Et Tsedri est devenu de sa mère à cause de cet impro raté. Ouais.
En 2001, vous avez 26 ans. Vous êtes toujours commercial. Et autour de vous, on vous dit que vous êtes en train de vous tromper de voix. Même votre boss vous le dit. Alors, vous démissionnez de votre CDI. Vous annoncez à vos parents que vous allez devenir intermittent du spectacle. Et même si c'est un pari risqué, vous avez une envie viscérale de vivre votre passion à plein temps. Et vous ressentez l'évidence de l'appel de la scène. Arnaud, vous faites alors des rencontres. D'abord, Fred Testo, qui vous permet de faire un festival. Puis, Parle de vous à Canal+, où vous présentez la météo. Puis vous rencontrez Pierre Palmade qui vous fait faire une émission sur France 3 ainsi qu'une pièce. Vous rencontrez aussi François Rollin que vous avez découvert quelques années auparavant sur une VHS et qui est celui qui vous a donné envie de faire ce métier. Et puis Raphaël Mesrahi vous fait monter sur scène pour un spectacle qu'il a créé. C'est comme ça que Laurent Ruquier vous découvre et vous contacte pour une nouvelle émission dans laquelle de jeunes humoristes viennent se tester devant un public et un jury. Ça s'appelle « On ne demande qu'à en rire » et ça tombe bien, vous ne demandez qu'à faire rire. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Incroyable.
Incroyable, hein ?
Non mais je me rends compte qu'en fait j'ai eu de la chance. Hein. C'est vrai, tous les noms que vous citez, ça a été des dominos qui sont tombés comme ça. Et je me rends compte que c'est quand même un privilège d'avoir pu rencontrer ces gens-là.
Voilà. Et puis, il y a une jeune personne qui vient de téléphoner qui veut récupérer sa médaille de fée clochette. On réglera ça après l'émission. Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. Bon week-end.
Merci, Lisa.
Vous restez avec nous. On va parler avec Nicolas Carreau dans Roman en lice pour le prix de Flore. Mais pas seulement. Arnaud de sa mère avec nous. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Deux mariages et un enterrement. C'est le nouveau one-man show d'Arnaud de sa mère. Il y aura une tournée, je ne l'ai pas dit encore. Vous serez le 30 à Chenôve. Vous serez le 13 novembre à Toulon, il y aura aussi Rouen le 25, il y aura Besançon, ça sera le 9 décembre, il y aura Lille, ça sera le 14 décembre, et puis après il y aura la Cigale de mémoire, c'est du 10 au 13 février 2022. Deux mariages, un enterrement, ça vous est vraiment arrivé, c'est deux mariages ratés, pardon de dire ça, c'est un divorce.
C'est surtout deux divorces, ouais. Mais le film c'est quatre mariages et un enterrement, donc je ne pouvais pas appeler ça deux divorces.
Vous savez que ça ne m'avait pas échappé. Hein. Voilà. Et puis l'enterrement, malheureusement, c'est la disparition de votre papa, et vous dites, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit pour sur des choses qui me sont réellement arrivées. Qu'est-ce que ça change ?
Ça change, la technique d'écriture est différente. C'est-à-dire qu'avant, j'inventais des choses. J'adore l'humour absurde. Donc, je partais de choses dans ma tête qui me faisaient rire, des situations, des décalages qui me faisaient rire. Et j'écrivais à partir de ces choses-là.
Et là, vous partez de choses qui ne vous font pas rire.
Exactement. Là, le processus, il est inverse. C'est de partir sur des choses qui ne font pas rire, qui doivent devenir donc des prétextes de narratifs à des digressions drôles, absurdes, etc. Donc c'est un processus qui est, quand ces prétextes narratifs sont très violents d'un point de vue personnel, c'est un processus qui est assez, qui est assez bouleversant aussi et qui est, je trouve, plus difficile. Mais le challenge est formidable de transformer ces choses-là en rire.
Mais quand vous racontez une histoire, par exemple, quand vous allez au mariage de votre ex,
oui.
Qui a ensuite l'échange du consentement, etc., tout ce que vous racontez ensuite est réel ou après vous inventez la fête, vous inventez ce qui se passe ?
Alors là, par exemple...
Ou vous partez d'un point de vue réel et après vous brodez.
Alors, le point de vue réel, c'est que c'est mon ex, c'est qu'on a été mariés, c'est que c'est une souffrance pour moi, cette séparation. La digression absurde et la narration absurde, c'est d'imaginer mon comportement si elle s'était remariée. En l'occurrence, ce remariage n'a pas eu lieu. Mais il est nourri de moi, vraiment moi, imaginant mon état si j'assistais à son remariage. Et vraiment, Philippe, j'aurais vraiment voulu baisser mon pantalon et faire des smileys avec mon anus, comme je l'explique dans le sketch, parce que pour pourrir le truc. J'aurais vraiment voulu me lever et dire au prêtre, vous avez oublié, monsieur, de demander si quelqu'un s'oppose à cette union. Ça me paraît important. Voilà, toutes ces choses-là sont nourries de sentiments réels, même si cette cérémonie n'a pas eu lieu.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Vous voyez qu'on est un petit peu dans le même sujet, tout est vrai. Ouais, dans
le
roman.
Le smiley avec l'anus a un petit peu perturbé.
C'est de l'autofiction en littérature.
Ouais. Vous nous parlez ce matin d'un roman qui fait beaucoup de bruit en cette rentrée littéraire. Il est même sur la liste du Flore. D'un mot pour faire le lien avec ce qu'il disait. Est-ce que ce qui est raconté dans ce roman est vrai ?
Non, mais il parle de la réalité.
Alors, qu'est-ce que ça raconte ?
C'est sans doute parce que c'est un roman qui parle justement de l'époque actuelle. Vous allez voir, ça s'appelle Le Voyant d'Étampes, signé Abel Quentin aux éditions de l'Observatoire. C'est l'histoire de Jean Roscoff, un universitaire juste retraité. Quand on le rencontre au début du livre, il dîne dans un petit restaurant hipster où l'on boit du thé au poivre de Sichuan ou des cocktails aux concombres et aux graines de sésame. Lui, il a 65 ans, il voulait une Suze, mais le barman n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Il est un peu déphasé, quoi. Il n'est plus trop à sa place dans cette époque, d'autant qu'il vient d'un monde révolu, celui de SOS Racisme. Il faisait partie de l'association dans les années 80, il a fait les marches, les manifs et tout, et là dans le bar donc il se rend bien compte que ses idées ne sont plus du tout à la mode. Il dîne avec Léonie, sa fille, et sa petite copine Jeanne, qui est très portée sur le mouvement woke. Vous savez, c'est ce mode de pensée venu des États-Unis. Woke, ça veut dire éveillé, qui considère que le racisme est systémique et parfois même inconscient. Et bien le mouvement woke se marie assez mal avec le vieil antiracisme des années 80, plus universaliste, et Jeanne lui fait bien sentir qu'il n'est qu'au fond qu'un gros hétéro cisgenre blanc nostalgique. Bon, parallèlement, il travaille sur une biographie, celle d'un poète américain des années 50-60, un certain Robert Willow, complètement oublié, qui s'était exilé à l'époque à Étampes.
D'où le titre du roman, et ça a un rapport.
Le rapport, c'est que dans cette biographie, il parle beaucoup du communisme du poète, de son compagnonnage avec Sartre, puis de sa prise de distance avec les idéologies, mais il n'évoque quasiment pas le fait que Robert Willow était noir. Or, un blog critique son livre sur le thème « Jean Roscoff fait de l'appropriation culturelle et déracise un poète ». Et donc ce livre, qui était censé s'adresser au départ à 30 passionnés, déclenche en fait une immense polémique.
Avec les réseaux sociaux à l'appui.
Et évidemment, avec ce qu'il compte d'effet de meute, Jean Roscoff ne s'attendait pas à une telle tempête et surtout pas à se faire traiter de raciste. Lui, l'homme de gauche de « Touche pas à mon pote », etc.
Donc ce livre, c'est une dénonciation de la culture woke ?
On pourrait croire, un peu. D'ailleurs, Abel Quentin se prend comme son personnage quelques attaques en règle, mais en fait, ce n'est pas vraiment un roman anti-woke, c'est un roman qui réfléchit, dans les deux sens du terme, qui réfléchit, c'est-à-dire qui essaye d'apporter de la nuance, de prendre du recul sur l'époque, mais qui réfléchit aussi comme un miroir des contradictions actuelles. Il renvoie en fait un peu dos à dos ce qu'on appelle les woke, donc, mais aussi ceux qui disent partout qu'on ne peut plus rien dire. En fait, il ne prend pas parti dans une société où justement tout le monde est censé choisir un camp. Non, lui, par la fiction, il regarde tout ça avec un peu d'humour aussi, et on a un sourire, nous aussi en le lisant, un sourire amusé parfois, mais un peu amer aussi, en prenant la mesure du chaos quand même qui règne en ce moment, des divisions et des positions campées, inamovibles de tous bords.
Le voyant d'Étampes, donc, c'est Abel Quentin, c'est aux éditions de l'Observatoire. Juste un mot, Robert Willow, il a vraiment existé ?
Non.
Il a pas existé, il l'a totalement inventé. Bon, à votre connaissance, il n'a pas existé. Pas. Ça vous a intéressé ? Est-ce que vous faites attention justement à ce que vous dites et à cette culture woke et à la suite aux réseaux sociaux, la manière, comment vous appréhendez ça, Arnaud de sa mère ?
J'ai la chance, et depuis le début de ma carrière, de faire un humour qui n'est pas du tout polémique, qui n'est pas du tout... Et je ne ressens pas, et je le dis sans beaucoup de fierté d'ailleurs, je n'ai pas de choses réelles, choses à revendiquer dans mon humour. Je n'ai pas de message politique avec au sens large du terme. Donc j'ai eu la chance d'échapper à tout ça parce que mon humour est absurde, un peu poétique. C'est prétentieux de dire ça, mais allez, on va le dire. Et enfantin. Et donc je suis resté toujours assez éloigné de ces choses-là.
Et parfois il fait des bulles. Je le dis parce qu'on parlait de champagne avec Olivier Pouls. Culture Média continue à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arnaud de Samer qui remonte sur scène. Il avait démarré, il a dû s'arrêter à cause du Covid, du confinement. Et là, c'est reparti, c'est en tournée. Et ça sera aussi à La Cigale. C'est à La Cigale.
Oui, La Cigale. Je l'avais pas noté. Du 10 au 13 février.
Deux mariages, notamment, c'est votre pièce. Vous êtes fan de champagne ?
Je ne suis pas fan de champagne, mais j'en bois. Je peux en boire, oui, quand l'occasion se présente.
Et hors antenne, vous m'avez dit, j'ai un problème avec le vin rouge.
Je déteste ça et c'est.
Pourquoi c'est un problème ?
Parce que déjà je suis français et que c'est inscrit
dans les gènes.
Dans les gènes. Que je fais un métier aussi où c'est très convivial après un spectacle d'accepter une bouteille qu'on pose dans sa loge, dans ma loge parce que c'est un cadeau, etc. Et je parais être quelqu'un de
d'asocial.
Ouais, d'asocial, non. De triste, de. Ah, tu ne bois pas de vin rouge ? Ah. Et il y a un silence comme ça. J'ai mis tout va bien, les gars, ça va, je bois pas de vin rouge, mais je reste. J'ai d'autres qualités.
Parfois, on dit ça aux gens qui boivent pas d'alcool, on a l'impression qu'ils font la gueule. Mais,
le rouge, c'est terrible de ne pas aimer le rouge, attention. Hein.
Vous m'apprenez quelque chose, Olivier Pouls.
Ah, moi, je l'aime pour vous, vous inquiétez pas.
Ouais, c'est ça.
Prochaine fois, il va dire je garde la bouteille
c'est
pour Olivier Pouls.
C'est l'as communicant, quoi.
Bonjour, Olivier.
Bonjour, Arnaud.
On sourit, mais il y a cette interrogation, Olivier Pouls. Allons-nous manquer de champagne pour la fin d'année ?
Alors, je vous rassure tout de suite, mon cher Philippe, il y aura probablement quand même, si vous le souhaitez, du champagne à votre réveillon.
Oh, le teaser qui
Mais
nous a fait.
Il est vrai qu'il y a une certaine inquiétude sur certaines marques, en tout cas. La reprise est là, on l'a constaté, les restaurants tournent à plein régime, les gens ont envie de se lâcher, les gens refont la fête, les gens sortent.
Pardonnez-moi, les gens ne s'étaient pas arrêtés de boire, au contraire, pendant le confinement, la consommation d'alcool avait augmenté.
Alors, non, en réalité, la vente des vins a légèrement baissé en France durant le confinement, contrairement à ce qu'on a pu penser.
Ah oui, moi j'ai lu partout ça.
Les gens ont bu pas mal chez eux, mais comme tous les restaurants étaient fermés, c'est quand même une grosse partie de la consommation qui ne s'est pas faite. Et puis surtout, il y a eu très peu d'exportations. Donc globalement, et surtout le champagne a beaucoup pâti durant cette période, parce que si les gens n'avaient pas vraiment envie de faire la fête, le champagne étant quand même très associé à la fête, ils en ont beaucoup moins bu. Mais là, ça y est, c'est reparti, les vannes sont ouvertes, ouais. Les gens boivent du champagne, ont envie d'en boire. Et puis surtout, ce n'est pas reparti que chez nous. C'est reparti très fortement à l'exportation. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays européens du Nord, du Sud sont très demandeurs de champagne et on est probablement en passe d'atteindre ou de battre le record absolu de vente de bouteilles de champagne en un an, 320 millions de bouteilles. Alors ça, évidemment, il faut les produire et on ne l'avait pas forcément anticipé. Donc un certain nombre de marques aujourd'hui disent déjà à leurs clients on n'aura plus rien à vendre d'ici la fin de l'année. Donc faites un petit peu de stock et allez-y mollo.
Mais ça n'a rien à voir avec les calamités qu'on a entendues ici et là. Je n'ai plus en tête les régions sur le fait qu'il y a eu du gel, qu'il y a eu trop de pluie, qu'il y a eu trop de soleil.
Ah non, parce que cet effet-là, on va l'avoir dans 3-4 ans. Les vendanges qui se sont passées cette année, qui ont été évidemment assez compliquées avec une production de champagne plus faible qu'elle ne l'est habituellement, -20%, -30%, le décalage, on va le voir dans 3-4 ans parce que le processus d'élaboration du champagne, il est long. Il faut faire du vin, il faut ensuite faire cette fermentation, il faut le garder en cave, il faut le dégorger, il faut le mettre sur le marché. Donc c'est
ça se fait pas avec un Soda Stream.
Il y en a. On peut mettre du vin blanc avec du Soda Stream. Ça donne pas tout à fait le même résultat.
D'accord. J'écoute avec attention parce que je désespère pas de me marier une troisième fois.
Ouais.
Donc pour cette cérémonie, il faut quand même que j'ai du champagne. Quoi.
Alors on va répondre à la question. Est-ce qu'il faut faire des provisions ?
Non, parce que alors sur certaines marques peut-être où il risque d'y avoir un peu de tension. Et peut-être un petit peu de pénurie, mais il y aura quand même du champagne disponible chez les cavistes et dans les réseaux de distribution classiques
Nicolas
à la fin de l'année.
Nicolas Caro, Piaf.
Mais est-ce que les prix augmentent alors ?
Alors oui, les prix vont augmenter et les prix augmentent déjà pour deux raisons. La première, c'est la loi de l'offre et la demande, hein, vous la connaissez, à partir du moment où il y a beaucoup de demandes et une offre qu'on ne peut pas multiplier puisque champagne n'étant pas produit en usine, on a ce qu'on a. Mais surtout, il y a une explosion des prix de toutes les matières sèches qui permettent de constituer une bouteille de champagne. Le prix du verre est en train d'exploser, Le prix des cartons est en train d'exploser, le prix des étiquettes, de tout ce que vous voulez. Et donc tout ça se répercute dans les bouteilles de champagne. Et il est assez probable que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on puisse, tout comme pour l'essence, mais je ne pense pas qu'il y aura de chèque de la part du gouvernement, avoir une augmentation assez significative du prix de la bouteille de champagne.
Non, et puis on voit les mêmes l'essence, puisque donc le prix du transport,
exactement,
il faut bien qu'il arrive
de la région champagne. Est répercuté, donc tout ça fait que oui, le prix du champagne est en train de monter assez fortement.
Alors qu'est-ce qui nous reste ? Nos yeux pour pleurer ou on peut se rabattre sur d'autres bouteilles, d'autres produits ?
Alors, il y a évidemment aujourd'hui en France d'autres alternatives. Je pense au crément, par exemple, et je répète qu'il vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne.
Oui, mais ce n'est pas pareil. Ouais. Pas un cadeau, tout à fait par pareil.
Non, mais bien sûr, les créments souffrent encore de cette image. Après, moi, on pourrait tout à fait imaginer.
Attends. Pourquoi ça vous fait rire le crément à l'eau de sa mère ?
Non, c'est parce que cette conversation me fait beaucoup rire parce que. Alors, attention, il n'y a plus de champagne, mais il y a quand même d'autres alternatives. C'est vraiment... Alors, on va quand même pouvoir se bourrer la gueule, on est d'accord. Il y a d'autres solutions. Rassurez-vous, il y a d'autres solutions.
Philippe, ouais.
On va pas rester comme ça. C'est cette conversation est absurde.
Avec modération, évidemment. Donc, le crément, alors.
Non, le crément, évidemment. Et puis, ben, vous savez, moi, je trouve qu'un très bon verre de vin blanc à l'apéritif, ça marche tout aussi bien. Donc, rassurez-vous, il y aura quand même moyen de passer un réveillon joyeux. Et puis, si on veut vraiment des bulles, il y a des concurrents aujourd'hui au champagne qui en profitent et qui sont en train de monter fortement. On pense au Cava espagnol, par exemple, ou au Prosecco italien. Je suis d'accord, ce n'est pas tout à fait le même niveau, ce n'est pas la même qualité, mais bon, c'est des bulles quand même.
Et vous êtes belge ?
Et moi qui suis belge...
On est parlé une fois du champagne belge, qui était le meilleur champagne.
Ce n'est pas du champagne, parce qu'il n'a pas le droit à l'appellation champagne, oui. Évidemment, parce qu'il n'est pas produit dans la zone de production de champagne. Mais il y a aujourd'hui des bulles belges qui sont absolument remarquables.
Vous avez les noms en tête, on terminera là-dessus.
C'est la cuvée Rufus, qui est, à mon avis, aujourd'hui, la meilleure expression et belge de la bulle.
Vous n'avez pas de pénurie de champagne en Belgique ?
Non.
Avec l'équipe de foot, vous ne l'avez pas ouvert souvent.
Bien, je m'apprêtais à aller le voir.
Ouais. Je sais que c'est un sujet sensible.
Avec plein de copains, on pouvait prendre plein de place. Eh bien, non, en fait.
Allez le voir quand même, vous irez dans sa loge récupérer le vin rouge qu'on ne manquera pas de lui offrir.
Et demain, je serai chez l'ami Mariotte et on a un invité fort sympathique, puisqu'on va parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler du port d'Iran. Avec, c'est le dernier film Barbac dont on va parler et nous recevons Monsieur Eboué.
Fabrice Eboué,
qui est l'auteur et le réalisateur d'un film hyper drôle.
Voilà, avec une apparition de Christophe Ondelat,
exactement, Martondi. Exactement.
Faites entrer le livreur. Merci beaucoup Olivier Pouls. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite avec Arnaud de Samer. On va retrouver Marc-Antoine Lebray, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arnaud de Samer, deux mariages et un enterrement, c'est son nouveau spectacle, celui qu'il reprend. Il avait démarré en 2020, puis comme un faux départ en Formule 1, il fallu repasser au stand et repartir. Vous êtes en tournée et ça sera du 10 au 13 février 2022 à la Cigale à Paris. Est-ce que vous êtes toujours le dimanche chez Michel Drucker avec votre compère Ben ?
Non. Non, je n'y suis plus. J'ai fait 123 sketchs avec Ben en 4 ans chez Michel. Mais dans la réflexion qu'il y a eu avec Jérémy Ferrari, on en parlait tout à l'heure sur ce nouveau spectacle, Jérémy m'a aussi convaincu de revoir un petit peu plus globalement mon image, on va dire, dans le métier.
C'est-à-dire de plus faire de télé.
Il me dit, il faut vraiment que tu retrouves, que les gens se rappellent que tu es avant tout un artiste de scène et qu'ils se disent, il est où Arnaud ? Ah, il est sur scène. Et pas, il est où Arnaud ? Bah si, il suffit d'allumer la télé, il est chez Drucker, il est chez Arthur, il est sur Teva, il est sur la chaîne L'Équipe, il est partout. Donc il m'a convaincu de ça, il m'a expliqué, et je pense qu'il avait raison, qu'il fallait repositionner mon image sur ce que je suis vraiment, c'est-à-dire un artiste de scène.
Il suffit pas de le dire, ça fait aussi un manque à gagner.
Oui,
parce que vous demander le salaire, mais vous n'y alliez pas gratuitement chez Michel Drucker.
Ah non, oui.
C'est un choix quand même.
Ouais, c'est un vrai choix. Mais j'ai la chance de ne jamais avoir fait ce métier pour l'argent. Et d'ailleurs, avant d'être un petit peu connu, je faisais ce métier avec tout autant de plaisir sans gagner un rond. Et enfin, en gagnant moins d'argent. Mais j'ai eu cette chance-là. Mais ça a été très douloureux d'appeler Arthur, d'appeler Michel, d'appeler tous ces gens-là pour dire je m'arrête. Mais
pourquoi
ça
Arthur ? Parce que vous étiez aussi dans Vendredi,
tout est permis. J'étais ce qu'il appelle un des sociétaires de l'émission. Et c'est difficile d'expliquer ça en disant je n'ai rien contre vous et c'est vraiment un choix personnel. Voilà, ils l'ont tous compris.
Et la télévision, vous avez une expérience rapide, une famille en or sur TMC, Ça s'est arrêté assez vite.
Je remercie d'ailleurs Camille Combal et TF1 de relancer l'émission, parce que j'étais persuadé d'avoir tué cette émission qui était mythique, présentée par de grands animateurs télé. Et moi, je l'ai défoncé en 2 mois, des audiences abyssales, cataclysmiques. J'ai tué cette émission incroyable qui s'appelle La Famille en Or. Et je suis très heureux qu'elle revive aujourd'hui. Donc merci Camille, merci TF1. Je n'ai plus ce poids sur les épaules.
Il le dit comme ça. 10h54, c'est l'heure de Marc-Antoine Lebray. Ce sont les stories. Je vous explique le principe. Chaque jour, des stars viennent voir notre invité. Mais ce matin, Arnaud de sa mère, c'est Marc-Antoine Lebray, lui-même en personne, qui voulait vous dire quelque chose.
Salut Arnaud, on se connaît. Ouais. Arnaud, il est hyper doué. Aujourd'hui, c'est vraiment le roi de l'absurde. Moi, je l'ai connu dans un festival, juste avant qu'il soit produit
par Raphaël Mesrahi. Bonjour. En fait, moi, voilà, je m'en rappelle le festival dont parle Marc-Antoine. C'était un lundi soir. Non, c'était un mercredi. Parce qu'il n'y avait pas école. Bon, bref. Non, et en fait, il y avait un jury. Bon, généralement, dans les petits festivals d'humour. Non, c'était un vendredi. Parce que, en fait, à la télé, il y avait Arthur. Dans vendredi, tout est permis. Et généralement, dans les jurys des petits festivals, alors, il y a une star et un boulanger. Non, c'était un samedi. En été, parce qu'en fait, on portait des doudounes. Et d'ailleurs, la star, c'était Franck Dubas. Non, public, tu n'as pas rêvé. C'était Elix et Moon, bonjour.
Mais non, c'était moi, Pigalle. Par contre, il est où ce festival, les gars? Bon, vu que c'est l'été et qu'on est tous en doudoune, je pense que c'est un festival en Bretagne, tu vois. Et pour être sûr, il faudrait demander à Laurent Ruquier,
bien sûr. Eh ben, ça tombe bien, j'ai la réponse. Ce n'est pas un festival, c'était dans On ne demande qu'à en rire. Ah non, pardon, c'était dans Vivement Dimanche, avec Michel Drucker. Quand il faisait son duo avec Ben, formidable Ben, sa mère, formidable. Je m'en souviens de sa mère, quand je l'ai rencontrée, c'était juste avant que Camille Combal reprenne son job dans Une Famille en Or.
Attention, Une Famille en Or à pas confondre avec Une Famille en Os, ça c'est les ligonesses. Bon frérot, sans recul, parce que la recul c'est pour Julien Lepers. Julien Lepers qui lui aussi s'est fait remplacer, là, Arnaud. On se concentre. Le jeu. Top, je suis un imitateur qui officie sur Europe 1. Et je ne me rappelle pas du nom du festival où j'ai rencontré Arnaud de sa mère. Je suis Marc-Antoine Lebray. Et j'espère gagner une encyclopédie de l'humour absurde d'Arnaud de sa mère. Merci.
Bravo. Merci Marc-Antoine Lebray. Quel numéro. Merci beaucoup. Merci Arnaud de sa mère.
Merci à vous. Merci Philippe.
Merci à vous. Donc on vous retrouve. Il faut que j'annonce tout ça. Vous serez le 30 à Chenôve, le 13 novembre à Toulon, le 25 à Rouen. Le vrai livre s'appelle Marom.
Marom, à côté de Rouen.
Il faut que j'appelle Marom. Ouais, le 12 ça. À Besançon. Non, le 9-12 et le 9 décembre à Besançon et le 14 décembre à Lille. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud de sa mère.
Un plaisir.
On a bien ri. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. On ne sait pas avec qui nous serons dans ce studio, mais on sait pourtant avec qui, car nous serons avec le gagnant ou la gagnante de The Voice. La finale aura lieu samedi soir sur TF1.
Salut les loups.
Jean-Christophe Ruffin pour son nouveau roman Les Flammes de Pierre. Juste après le flash, c'est Julia Vignali et Mélanie Gomez pour Bienfait pour vous. Bonjour, le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou. On va parler à la fois d'argent et d'amour. Comment faire en sorte que tout se passe bien avec son amoureux ou son amoureuse, en parlant d'argent évidemment, sans se séparer à ce sujet.
Très bien, la paix des ménages avec nous aujourd'hui. Puis dans notre dossier santé, on va vous faire découvrir un programme qui s'appelle les 4S pour rééquilibrer sa vie. Un programme de prévention pour éviter de nombreuses maladies. On va tout vous expliquer.
La paix des ménages, c'est tout l'enjeu du spectacle d'Arnaud de sa mère. Deux mariages et un enterrement. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1. Nous, on revient lundi à 9h. Salut.